Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. La carte blanche de la semaine est donnée à la formation Yala Miku, une des pépites du label suisse Bongo Joe. Interview du groupe à retrouver en fin d'émission. Pour les deux albums de la semaine, Cédric de Fréquence Mutine présentera Our Decision par le groupe de post-punk ravageur Frustration. Mais tout de suite, laissons place à Nathan de Radio Béton qui reçoit les Tourangeaux de Ranco pour nous parler de leur dernier disque, Monument Movement.
Avec Nathan de la Radio Béton et vous venez d'écouter le morceau For Every Blow introduisant le nouvel album Monument Movement du quintet tourangeau Ranco. Après un premier album ultra réussi, la formation d'après punk remet le couvert avec un disque labellisé Figure Libre, Another Record et Capsule Collectif, le triplet gagnant quoi. Opération gratin de guitare, style drum avec disto pour ce disque qui se veut peut-être plus franc que le précédent là, dans la composition ou même la production. Bref, Monument Movement, on le découvre aujourd'hui dans Dig 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 Diggers avec les membres de Ranco, deux membres de Ranco autour de la table. J'ai nommé François ainsi que Boris. Yo à tous les mecs.
Salut.
Eh ben on va rentrer dans le vif du sujet. J'évoquais du coup un peu dans cette intro un album un peu plus franc que le précédent. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une approche qui est peut-être un petit peu différente dans la façon d'écrire les morceaux. C'était quoi à peu près l'état d'esprit quand vous êtes entré en studio ou même tout simplement quand vous étiez en période de composition lorsque vous avez écrit ce Scud?
Alors déjà, il y a la composition s'est un peu ouverte à d'autres personnes dans le groupe, mm-hmm. notamment François qui a beaucoup composé sur ce disque aussi.
Ouais.
Là où c'était un peu plus moi sur les précédents, même s'il y avait bon, ça reste un groupe donc y a les compos étaient amenés et puis on les travaillait ensemble toujours. Mais là du coup il y a vraiment la moitié du disque où c'est où François a beaucoup composé, Antoine le batteur aussi a fait un morceau. Mm-hmm. Donc ça déjà ça a pas mal changé l'approche et puis enfin même la musique du coup est un peu différente forcément. Et puis au niveau de l'enregistrement, on est plutôt parti sur une base plus live quand on a enregistré, contrairement au premier album où c'était on avait enregistré vraiment plus en piste par piste avec beaucoup de ce qu'on appelle des re-re, des overdubbing, c'est-à-dire on refait des parties de guitare par-dessus, on rajoute des pistes, donc il y a beaucoup de travail de mix après, donc c'est un travail qui est assez différent, qui est plus long. Alors que là, bon, on a fait vraiment avec des prises de basse, batterie, guitare live, donc on avait une bonne base sur laquelle après travailler, c'est beaucoup plus direct quoi dans le son. Je pense.
Ok, je vois. Voilà. Alors justement, tu disais que ça s'est un petit peu ouvert dans la composition, notamment toi François, je t'entends un petit peu plus chanter dans ce scud. Genre comment t'as fait pour t'imposer un petit peu et genre t'avais quoi à peu près comme idée justement pour renouveler peut-être le son de Ranko?
Non, s'imposer non, parce qu'en fait ça a toujours été quand même
assez ouvert,
assez démocratique comme groupe. Enfin, il n'y a jamais eu d'autorité dans le sens où de toute façon on s'est tous toujours dit qu'il fallait qu'on aime tous ce qu'on joue, ce que les autres ce que Boris amenait quand c'était lui qui amenait majoritairement les trucs, donc il fallait qu'on aime tous un peu ce qu'on faisait, donc il y a toujours eu un truc où ça a jamais été le compositeur a jamais été autoritaire, donc au final il n'y a pas eu besoin de s'imposer, c'est juste les choses se sont faites comme ça au fur et à mesure quoi. Après je sais pas ce qui nous a poussé enfin, ce qui m'a poussé à composer des trucs pour ce groupe, après, c'est que j'ai besoin de composer. Enfin, je le fais de toute façon en général, quoi. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Et puis, effectivement, il y a deux morceaux que je chante en lead. En fait, il y avait un morceau que j'avais déjà chanté en lead sur l'EP. Et puis Camille et moi, on fait des chœurs beaucoup depuis longtemps, même des fois des leads sur des refrains. Donc au final, nos voix, Camille et moi, sont pas si rares que ça. Enfin, je veux dire, on a tous toujours chanté sur tous les morceaux, en tout cas Camille et moi au moins. Moi, j'ai déjà eu des leads sur des refrains et trucs comme ça. Donc au final, ça s'est bien mis assez naturellement. Enfin, il n'y a pas eu un changement de style radical parce que nos voix existaient déjà largement dans les autres morceaux. Quoi. Donc,
okay. Pas non plus. Je vois. Il y a un truc que j'ai noté dans des interviews que j'ai écoutées précédemment. Notamment, il y avait un truc de capacité. Alors, j'ai noté capacité de se brancher, de jouer et d'être content directement. Genre, tu t'es en jam, etc. Tu joues, ça fonctionne. Moins d'aller-retour. Est-ce que c'était un petit peu comme ça que vous avez approché les morceaux, la composition dans ce scud-là?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a donc il y a un cinquième membre depuis Gabriel au clavier, guitare, basse aussi. Avant, on fonctionnait beaucoup sur des boucles, sur des empilements de boucles de la boîte à rythme. Donc, on se retrouvait avec de la batterie synthétique de boîte à rythme, plus des basses de la boîte à rythme, plus des trucs mélodiques. Donc, c'est des espèces de sandwich de sons qui n'étaient pas hyper confortables, notamment en live. C'était l'enfer. On a vraiment passé des moments de live assez déprimant parce que vu que c'est des boucles, il y avait un côté comme si on jouait avec un métronome, sauf qu'il y a des endroits où on n'entendait pas forcément bien la boîte à rythme, donc ça nous arrivait de nous décaler. Enfin, donc ça rendait tous les concerts assez stressants en fait, et pas hyper lâché, alors que la musique veut quand même ça, c'est assez explosif et t'as envie de que ce soit vraiment du rock entre guillemets, tu branches et puis tu joues et puis donc là maintenant on n'a plus de boucle du tout, grâce à notamment Gabriel qui fait donc les basses, les claviers, machin. Et donc ça nous a aidé à être beaucoup plus content de jouer en tout cas, d'arriver et puis de se brancher effectivement et de récupérer ce truc un peu rock qu'appelle la musique du groupe quoi depuis longtemps.
Alors vous avez pas mal, même beaucoup tourné, on peut le dire, ces dernières années, entre la sortie de De Novo, votre premier disque, et la sortie de Monument Movement, que ce soit dans la France, que ce soit en Angleterre, ou même un petit peu à l'étranger, enfin je parle plutôt d'Union Européenne, si on peut dire ça comme ça. Je me disais, comment vous avez justement, est-ce que cette tournée-là, elle a influencé votre façon de composer, c'est-à-dire genre quand t'es tout le temps sur la route, est-ce que t'as le temps de prendre le temps de réfléchir dans ta façon de composer, est-ce que ça a un impact d'une certaine façon, ou même est-ce que quand vous avez rencontré des personnes, des groupes, ça vous a donné d'autres idées potentiellement.
Ah oui, ça c'est sûr, ça ouais. C'est sûr. Pas forcément rencontrer en vrai ou avoir vu des concerts ou quoi, mais écouter de la musique, ça c'est ouais. sûr que ça passe que. Enfin, en ce qui me concerne, je me rends compte que j'ai aucune idée de composition si j'écoute pas de musique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sans avoir l'impression de copier, hein, mais c'est juste que les choses arrivent parce que t'as des choses en tête et qui se mélangent ou bon c'est pas et je sais qu'il y a des périodes où j'écoute moins de musique j'arrive pas à composer, enfin il y a vraiment un truc de lien direct entre les deux, je pense. Après, la composition par la tournée, je crois que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'impact, en tout cas pas pour nous, enfin, j'ai pas l'impression. Par contre, dans les modes de jeu et dans éventuellement l'orchestration ou essayer de repenser les choses d'orchestration ou d'arrangement, ça peut arriver parce que forcément les morceaux du coup se répètent quotidiennement, donc il y a, tu vois, les choses qui marchent, les choses qui marchent moins, ou les choses qui sont un peu branlantes parfois, ou les choses qui sont moins judicieuses que d'autres, du coup tu repenses des choses, mais ça c'est pas forcément la tournée, c'est juste le fait de répéter beaucoup les trucs.
En fait, ce sont quand même des morceaux qui ont été beaucoup beaucoup joués avant d'avoir été pris en studio.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a des compositions, enfin notamment Paradiso, qui est le plus vieux morceau du disque. Il a quand même quasiment 3 ans, quoi. Donc il y a des morceaux qui ont été bien joués beaucoup depuis. Quoi.
Club Paradiso directement dans Dig Diggers. Là, pour ce Scud, vous êtes retourné à nouveau au studio Black Blocks, c'est ça?
Ouais.
Vous y êtes allé particulièrement, pourquoi? Vous l'avez senti comment? La première expérience, c'était dur heureux, c'était vraiment beaucoup de piste par piste, alors que cette fois-ci, c'était beaucoup plus live. Comment, en fait, vous avez un petit peu envisagé cette entrée au Black Box? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas?
Qu'est-ce qu'on allait chercher? Bah, en fait, la première fois, c'était vraiment génial. Le cadre est quand même incroyable. Là, on avait l'opportunité de bosser avec Peter Daimel, donc qui est le boss du stud. Et donc, on était très contents de bosser avec lui sur cet album parce que c'était quelqu'un qui nous. Enfin, qu'on avait croisé déjà pour le premier enregistrement, qui était avec Fake Baptiste, Mésange, qui est notre ingé son live. On était déjà au Black Box et donc on avait croisé Peter à cette occasion. Et les discussions avec lui, c'était à chaque fois hyper intéressant. Il est super cool. On partage vraiment les mêmes influences. Donc voilà, c'était un peu c'est pour ça qu'on est retourné là-bas.
C'est un mec qui accompagne pas mal pour que ce soit la prise du son, comment travailler le son à certains moments, peut-être même couper des morceaux. Est-ce que justement il y a eu cette petite part entre guillemets de Peter
Complètement, ouais. Et c'était vraiment c'était quasiment direct, directeur artistique, c'est-à-dire qu'il était c'était très bien pour nous aussi qui avons un peu du mal des fois à se décider ensemble, ça c'est pas évident de prendre des décisions à 5. Et c'est vrai que Peter, des fois, quand on zonnait un peu sur les décisions, il disait « moi je préfère ça ». Après, il y a des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord des fois, donc on en discutait tout ça. Mais globalement, il était quand même assez...
Il y a eu un veto, quoi. Un veto, ouais. Ou deux, je pense.
Globalement, il était quand même assez bien dedans, quoi. Il avait bien compris un peu tout. C'était super de travailler avec lui là, pendant 10 jours. C'était vraiment, vraiment très bien, ouais.
trop cool. Et j'ai trouvé qu'il y a quand même peut-être deux morceaux, je trouve, qui tranchent quand même pas mal avec, avec ce qui a déjà été produit dans le premier disque, ou même un petit peu l'ensemble des morceaux qu'il y a dans le Scud. C'est les morceaux Maydown et ainsi que Talking Monument, qui sont des morceaux qui sont assez longs, qui s'étirent, qui, avec notamment sur Talking Monument, une rythmique assez solide pendant 7 minutes, puis ensuite grosse envolée. C'est comment ils ont été faits, ces deux morceaux-là? J'ai l'impression qu'il y a une approche un peu différente. Non.
Ouais, oui. Pour le coup, c'est des morceaux que j'ai composés, enfin que j'ai ramené. Donc, du coup, ça, c'est pas illogique que ça tranche un peu avec les précédents trucs, quoi. Mais Meadows, on a galéré un peu parce que, en fait, ça partait d'une idée d'une clave, une ligne de basse, quoi. Et puis après, bon, bah, du coup, tout le truc s'est fait. Mais en fait, ça a été un peu long à faire. On a un peu galéré à la montée, quoi. Parce qu'il y a des trucs qui étaient pas forcément clairs dans ce que moi j'avais en tête. Du coup, on bossait quand même ensemble des trucs. Et puis, c'est un morceau qui était un peu long à monter, quoi. C'était pas toujours très clair. Et puis, en fait, je pense que ça se ressent parce qu'il est assez, il est assez sinueux, quoi. Il est pas lisible tout de suite, je pense. Et puis Talking Monument, ça c'est plutôt ça s'est fait assez vite dans la composition. Et ensuite il y a le timing du morceau qui s'est pas mal structuré aussi avec Boris. Enfin, c'est un truc qu'on a fait un peu plus à deux, parce que pour le coup c'est Boris qui le chante, celui-là, enfin ouais. Comme Meadows, cela dit, mais c'est lui qui a écrit des paroles sur les deux morceaux. Et en fait c'est ça aussi, c'est que je pense que c'est la première fois aussi qu'on fait des morceaux un peu plus à deux.
Okay.
Parce que Boris, ayant composé les paroles sur les deux morceaux, ça fait que la structure, enfin en tout cas le timing, pas la structure, mais le timing a été déterminé aussi par ses tours de chant et tout ça. Donc du coup, ça a déterminé des choses qui n'étaient pas forcément. On a dû bricoler un peu à deux sur des trucs, quoi.
Mais
enfin,
du coup, c'est
à cinq. Mais je veux
coup,
dire,
c'est marrant que tu te sois arrêté là-dessus, parce que c'est vrai que c'est les deux seuls qui ont été faits un peu à deux, alors que les autres, c'est vraiment. Enfin, soit c'est que François, soit c'est que moi,
ouais.
Soit c'est que Antoine pour un morceau. Mais du coup, c'est oui, Monument, Talking Monument et Meadows, c'est les deux seuls morceaux du disque qui ont été faits effectivement à deux. Et du coup, effectivement, ils sont déjà dans la composition assez long et peut-être un peu plus sinueux que les autres. Et en plus, bon voilà, du coup, moi j'ai essayé de faire des paroles et puis ça a redessiné un peu le morceau de François aussi, parce qu'il fallait rajouter un bout, parce que du coup les paroles ça rentrait pas, enfin bon, des trucs comme ça, quoi.
Ouais c'est tout un micmac, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ils ont un peu une gueule peut-être un peu différente, ouais.
Ouais. Mais en tout cas, c'est un morceau que je trouve vraiment super cool. Ouais. Ça prend le temps de s'installer, quoi, et à la fin, ça finit quand même vraiment bien, quoi. En tout cas, Talking Monument, pour terminer un Scud, je trouve que vraiment ça a assez la classe. Cool. On va pas se mentir. Vraiment, aussi, c'est très cool. Les Ranco, merci d'être venu pour cette édition de Diggers. François, Boris, ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir. Vous pouvez écouter ce Scud Monument Movement. Eh ben, merci à vous, les Ranco. On va se quitter sur la dernière piste de cet album, Talking Monument. C'était Ranco avec Monument Movement. Allez, salut,
merci beaucoup.
Salut.
Very good. Et nous sommes avec Fabrice de Frustration pour la Ferra Rock. Salut Fabrice, bienvenue sur les radios rock de France.
Salut monsieur Cédric, ça va bien ?
Oui, ça va bien. Alors t'es là pour nous présenter et on est joie évidemment nous à la Ferra de pouvoir écouter et puis faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs ce tout nouvel album de Frustration qui s'appelle Our Decisions. Qui
vient... Un album de déconne totale. Ah, ouais. Et de cirque humoristique et léger.
C'est dingue, hein. Là, le changement est radical. Pour le coup, oui. Rien à dire.
Ah oui, mais là, on est à côté à Piccolo ou alors Tagada Jones, c'est carrément à côté, c'est l'autre et à mon. Non, mais franchement, oui, c'est on dirait carrément Christian Death à côté de nous, tellement ce disque est drôle et léger et carrément onirique, c'est super.
Évidemment, nous sommes un peu dans la déconne, vous l'avez bien compris. Rassurez-vous, les fidèles de Frustration, vous n'allez pas perdre au change avec ce disque. Et puis un album avec ce titre implacable, Our Decisions, que vous martelez dès le premier morceau. Le constat est direct et frontal, comme souvent chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des thèmes abordés que vous avez vraiment voulu mettre en avant, que tu as voulu mettre en avant, toi, en tant que parolier sur ce disque ?
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant le confinement, donc on a été bien prudent en gardant le lien, en continuant à se voir avec le petit papier magique une fois par semaine pour répéter au nom, mais pondre quelques trucs qui, quand on a décidé de faire un disque il y a un an, on avait quelques plans, comme d'habitude avec Frustration, on avait quelques trucs qui traînaient à droite à gauche. Comme tu le sais, moi je n'ai pas l'écriture transpirante, ce qui fait que j'ai jamais de texte d'avance en fait, parce que j'en ai absolument rien à foutre. Puis comme dans la vie de tous les jours, j'ai un avis sur tout, mes textes, je les écris en saoulant les gens, en leur parlant. Donc on a travaillé les lignes vocales là-dessus. Avait été décidé musicalement de travailler nous-mêmes sur ce disque. On a pondu nous-mêmes le disque. C'était dur, c'était. On a failli se taper plusieurs fois parce que c'est très très dur de bosser en famille, le nez dans le guidon. Et donc on a bossé, en fait les paroles sont en accord avec le son du disque qui est un peu âpre. On a voulu un disque qui soit absolument reproduisible sur scène tout le temps, scripture à bras, il y a rarement une deuxième guitare, les voix ne se croisent pas au refrain, au couplet. Et donc j'ai écrit sur les 10 morceaux, il y en a un qui est en allemand, qui a été écrit par Nikus, musique. Et paroles.
Un titre en allemand qui sonne un peu comme une comptine, mais une comptine tout à fait spéciale. D'ailleurs, vous êtes avec une voix féminine, parce que c'est la chanteuse de Hammershøi, qui est un excellent groupe d'ailleurs.
Et donc, on a bossé avec Anne là-dessus. Il y avait eu plusieurs. Je rentre dans le détail sur ce morceau-là. Il y a eu. On avait pensé à plusieurs personnes. Plusieurs nanas sur ce truc, et puis pour des histoires de planning, de rapidité de choses et de sensibilité, on voulait un truc vraiment simple, on a trouvé que la voix de Anne serait adaptée, et moi je me suis carrément collé sur l'ambiance qu'elle a donnée à ce morceau. Mais pour revenir aux paroles, donc c'est Nikus, notre guitariste, qui a écrit les paroles et les musiques de ce morceau. Il y en a un, Riptide, j'étais complètement sec. À la fin, j'étais complètement sec, c'est Junior qui l'a écrit, notre synthé, et on a fait une écriture en collaboration, ce qui est relativement rare, parce que j'écris quand même 95% des morceaux, depuis Frustration, on a eu 4 qui sont, 3 je pense qui sont pas de moi au niveau paroles. On a écrit Secular Prey, tout le groupe ensemble en fait. Pour revenir aux paroles, on est en colère en fait.
There is no time, neither romance, no impatience, a old man's sick, disintegrations, drive him tangled in illusions. Thank you. watching limbs while running fast. The whole forest seems so hostile and sticky sludge under his feet, sealing his fate, won't let him free.
Et puis une colère emmagasinée parce que il y a 5 ans entre le précédent album, bon, il y a eu plein de choses hein, parce qu'il y a eu l'anniversaire, les 20 ans, il y a eu un 45 tours, il y a eu énormément de projets qui ont été menés sur cette période, mais voilà, on a toujours ce temps nécessaire pour frustration, pour sortir un disque.
Ouais, le dernier, il était, si je peux me permettre de corriger, il était de l'automne 2019, donc on est sur quatre grosses années, comme tout le temps pour nos albums. En fait on n'a pas de deadline, parce que comme déjà petit 1, on n'est même pas sûr que JB de Band Bad Records ça lui plaise, on n'a pas de deadline, et comme on n'a pas de deadline, et bon, on prend notre temps, et puis on est des gros ramiers parce qu'on répète qu'une seule fois par semaine. En plus, il y en a deux d'entre nous qui sont partis vivre en province depuis, donc ça, c'est venu comme c'est venu en fait, mais l'enregistrement de l'album lui-même a pris 7 mois.
Tu parlais de Junior et des synthés, ça, c'est quelque chose ils sont encore plus présents sur cet album, pas tous les morceaux, en plus avec un côté assez strident, assez, on se les prend dans la gueule quoi. Les synthés sur ce disque, c'est un parti pris aussi
c'est mais tu sais, on travaille souvent ensemble nous tous sur les sons. Junior nous propose des choses des fois assez durement. On jette 7 morceaux sur 8 et il nous en représente d'autres de frontalement. Il y a des fois, j'en prends plein la gueule aussi sur mon accent, sur des morceaux qui ne veulent pas, c'est rare, mais ça arrive. Non, là, il n'y a rien de... En fait, il n'y a rien de ni prédestiné ni voulu. Le seul truc, le seul parti pris qu'on a voulu ce coup-ci, Nicus, notre guitariste, étant en manette, c'est que le disque soit reproduisible sur scène complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième guitare. Tu regarderas, mes voix ne se croisent pas entre les refrains et les couplets. C'est vraiment un truc où on voit un disque le plus live possible, retransmet.
Alors on pourrait se dire comme ça, quand on connaît pas, que du coup c'est plus simple, c'est peut-être plus facile à enregistrer, mais que nini, c'est tout l'inverse, non? Parce que
l'enfer.
Oui.
L'enfer, garçon. L'enfer. J'étais dans le train pour venir enregistrer, j'avais le nœud au bide des fois, alors que c'est mes copains qui étaient à la console. C'était encore plus dur parce qu'au niveau exigence. Ça a été carrément, c'est un peu ridicule d'ailleurs, hein, parce que, le résultat est là et on en est. En fait, on commence à découvrir ce disque par vos appréciations à vous tous et vous toutes. En fait, on a tellement été dans le guidon, on ne savait même plus quoi penser de ce disque. Mais vraiment, normalement, on avait quand même l'avis des personnes avec qui on enregistrait, JB qui passait en studio pour Jean-Baptiste de Band Bad Records qui passait pour nos disques, s'il en pensait. Là, on était le nez dans le guidon, comme des ermites en train d'enregistrer quand le disque qu'on a fait. La setlist a été très très vite. La setlist, c'est l'ordre des morceaux pour les auditeurs, a été très très vite définie et on en est très content de cette setlist. Ça donne un espèce de, on va pas dire parler de concept album, mais finalement, il y a quand même un concentré de tout ce qui nous tracasse actuellement, comme c'est peut-être en valeur sur l'opprobre sur Internet. Je parle quand même d'une jeune fille qui se pend dans le garage familial quand même. Il y a un truc assez homogène, ouais, finalement.
Oui, et on a aussi deux textes en français, hein, Omerta et Consumé, là aussi. Alors du coup, pour les non-anglophones, on a aussi pour le coup un propos très direct et des sujets qui vous touchent, hein, qui sont d'actualité et qui sont des critiques complètement justifiées, hein, d'une bonne partie de la société.
Ouais, il y a Omerta qui est plus dur à comprendre. Parle de l'entre-soi en fait qu'il y a dans le rock en fait. Je m'autorise même des jeux de mots à parler un peu à la Bobby Lapointe. Je dis clown triste mourant en grande pompe. Je parle de l'entre-soi qu'il y a dans le rock en fait. C'est pour ça que je dis on prend du ferme au Bal des Vauriens. Le Bal des Vauriens, c'est un festival de punk et de hardcore qui existe. Je parle de ces petites médisances qu'il y a, de cette prison dorée un peu qui est le rock and roll et le punk, le milieu musical en France en fait, qui est finalement un milieu pas si libre et libertaire que ça. Et Consumé parle du fait en fait que beaucoup de gens maintenant n'ont même plus envie d'une vraie égalité de droits et financière entre les gens. Il y a des gens qui n'y croient tellement plus. Qu'ils espèrent par le biais de quelqu'un devenant célèbre dans leur famille par, le basket, le cinéma, le cinéma pornographique, la chanson, je ne sais pas, d'arriver à rentrer dans la jet set à base de piscine, une voiture de sport, un garage devant un restaurant, et qu'il y a juste cette volonté de s'extirper de ce magma, de paupérisation qui caractérise notre société, vu qu'il n'y a plus de middle class. Génération de truffes apathiques. Fantasmant sur des complats de fric. Soit des vieux qui n'ont plus rien d'épique. Ou des parvenus creux sans éthique.
Tu parlais de JB parce qu'on rappelle évidemment que votre album Our Decisions sort chez Born Bad Records. Et moi, il me disait, parce que je l'ai vu la semaine dernière, et il me disait, tu vois, avec frustration, le truc fou, c'est que les gars, là, ils ont plus de 20 ans de carrière, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus. Et ben, ils sortent un album, t'as toujours la sensation comme si c'était un premier album d'un jeune groupe. C'est ce qu'il m'a dit, moi, texto.
Ouais, alors que JB, chaque fois qu'on sort un album, alors qu'à chaque fois, les mecs, on s'amuse tous les deux à imiter JB, parce qu'il a vraiment un accent parisien, un coup à la tronçonneuse. JB dit à chaque fois que ce sera le dernier album, mais à chaque fois, on en ressort un. Bon, il arrive un moment qu'on va tous rouler en Lada, et puis qu'il faudra enregistrer en russe. Je ne sais pas si on enregistrera encore un album, mais à chaque fois, il nous dit que c'est le dernier, qu'il ne sait pas s'il va le sortir et tout. Et à chaque fois, on remet 100 balles dans le cochon et puis on repart ensemble sur 2 ans de promotion et sur des milliers de disques vendus. Non, mais oui, en fait, il y a un truc pour ma part, je pense que mes camarades du groupe seront d'accord avec moi. En fait, pour mes auditeurs et auditrices qui nous connaissent pas, quand j'ai formé le groupe il y a plus de 20 ans, je voulais que ce soit le dernier groupe auquel je participe. Je me suis dit, on fera 4-5 concerts par an, on passera pour des vieux schnocks à la The Fall et Joy Division, et puis je baisse le rideau et j'arrête de faire de la musique. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, presque 1000 concerts. Et je trouve que, c'est qu'un avis, mais je trouve que le cadeau, il est tellement chouette au niveau du fait que les gens nous aiment bien, qu'on va pas se mettre à... on va pas se mettre à le gâcher en tenant des propos de connard tout à coup ou en vendant notre âme au diable. Ça peut paraître très prétentieux comme terme, mais et on le paye assez parce qu'on n'est pas, aucun de nous n'est devenu riche ou tout, mais ça permet de garder un petit peu de ce groupe, ça permet de garder vachement de dignité en fait. Mais en remettant toujours le métier sur l'ouvrage, à aucun moment on essaye de se vendre. Il n'y en a aucun de nous qui a tenté une carrière solo. J'en ris d'avance. Mais donc voilà, ouais, c'est pour ça que on a peut-être l'impression qu'on remet. Et surtout que là, sort vraiment du truc de studio. Il y a un son on est vraiment très content du son final en fait.
Complètement. Et donc en gros, ça vous permet de garder les pieds sur terre, frustration, d'une certaine façon.
Oh, je vais même aller plus loin, mon petit chat. Il y a même un truc de. On va même prononcer un truc, un mot. Autant j'ai du mal avec le mot arpuche. Mais par contre, on peut peut-être évoquer un petit peu un sentiment de liberté quand même, qui est quand même la plus grande richesse et quête de l'humain, je pense.
Mais ouais, alors évidemment, il va y avoir des concerts. Alors, on sait que Frustration est un groupe aussi assez rare en concert, parce que vous jouez quand vous avez envie, quand vous pouvez le faire. Il y a quand même des dates qui s'annoncent là. On vous conseille d'aller suivre ça. Et si par chance ça passe par chez vous, n'hésitez pas à aller voir Frustration. C'est à ne pas louper. Moi, j'aurais aimé qu'on parle aussi un peu d'artwork, parce que ça a toujours été un élément fort aussi, hein, qui va et qui complète le propos, la musique, tout ce que vous voulez défendre. Pour Our Decisions, on a eu. C'est choc en fait, hein, comme visuel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui a fait ça? Comment vous avez choisi c'est pas évident en radio évidemment de parler d'image, mais quand même, important.
Comme d'habitude, on a bossé à part sur certains 45 où on bosse avec des pochettes où on se permet une liberté par rapport à José Baldomero, Baldo, qui fait toutes nos pochettes. Les 45, on a bossé avec des peintres, des photographes, avec Elzo Durst, avec grand plaisir. Et là, ce sixième album, on a continué à bosser avec Baldo. Et il y a des fois, on est parti de peintures déjà existantes, par exemple. La peinture La Goudronneuse qui était sur Sokol Screen, c'était un tableau qui pend chez lui, qui est suspendu dans son atelier depuis 20 ans. La pochette du tout premier Frustration Full of Sorrow, ça avait failli être la pochette de Sokol Screen 20 ans après. Et cette pochette-là, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette pochette-là, c'est plus ou moins une commande. Le recto, le verso, il y a des insectes épinglés avec des espèces... disparu, bon c'est une libre interprétation du truc hein, sur les insectes, mais ça par contre l'idée s'est faite avec le groupe et lui, mais par contre la commande on lui a demandé d'avoir éventuellement évoqué une décharge juste d'objets plastiques, bouteilles, avec une, on voulait quand même qu'il y ait deux humains dessus. Il y a le conducteur de la chargeuse qui n'a pas de visage, et la personne qui est en train d'essayer de tirer quelques deniers en triant ce plastique qui est de dos. C'est une pochette, ça m'arrive de choquer même mes camarades quand on est en interview, c'est une pochette qui n'est pas très très jolie. Les polices nous plaisent énormément, les couleurs également, mais la pochette n'est pas très jolie. On a préféré le côté subversif que le côté esthétique ce coup-ci en fait. Purement esthétique.
Et en tout cas, je peux que conseiller tout le monde, évidemment, d'aller vous retrouver sur scène et d'aller écouter cet album. Et si vous ne connaissez pas, plongez-vous dans toute la disco de Frustration, Our Decision, sur Bandbad. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci beaucoup, merci à toi, et puis merci à bientôt à tous et à toutes. Merci.
Salut, ciao.
Salut. Under the big bright
La formation Sans Frontières Yala Miku, initiée par un des fondateurs du label Bongo Joe, vivier de la scène suisse, était de passage à Rennes lors des Transmusicales, l'occasion pour Yann de Canal B de s'entretenir avec le groupe.
Salut, moi c'est Cyril Yeterian et je suis musicien dans Yalla Miku entre autres, et puis je m'occupe du label et du magasin de disques Bongo Joe. Et à ma gauche, il y a
Anouar Bauna, ma musicien originaire de Ouarzazate, du sud du Maroc. Je suis membre de Yalla Miku et j'ai aussi plein d'autres projets à gauche à droite, spécialement de la musique gnawa et de la fusion.
Bonjour, Bouchaké Ali, d'origine algérienne, je vis à Genève, je fais partie de Yalla Miku.
C'est une espèce de famille un peu foutraque à la Miku, mais je crois comme la musique, tu vois, on fait ça de manière spontanée, avec plein de rage et plein d'amour. Et puis c'est vrai que quand il s'agit d'avoir une espèce de discipline, on peut questionner le rapport au temps. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit un truc assez génial, je crois que ça venait de quelqu'un d'origine africaine, qui disait « Mais vous, les Occidentaux, vous avez les montres, et nous, on a le temps. » Et ça, je trouve que c'est exactement ce qu'on vit voilà, au quotidien avec ce groupe, et c'est assez génial. Bon, quand il faut être à l'heure quelque part, c'est pas possible, mais voilà, on le prend de l'autre côté et on s'excuse du retard.
Voilà. Yalla Miku, c'est pas juste vous trois, non, il y en a d'autres aussi. Il y a un autre Cyril, il y a deux hypercultes. Elle est née comment, la formation ?
Ouais, c'est les circonstances, on va dire, propres à notre ville Genève, qui est une quand même un endroit qui accueille des gens qui viennent d'ailleurs, non occidentaux. Migrants, réfugiés politiques, etc. Et bah en fait, finalement, notre histoire, elle a commencé grâce au magasin Bongo Joe. On était en lien avec des artistes, activistes qui essayaient de militer pour améliorer les conditions d'accueil des personnes qui débarquaient. En France, on appelle ça des sans-papiers. Tous les musiciens de Yalla Miku ont joué en fait assez vite après être arrivés à Genève au magasin. Et c'est vrai qu'on a noué des amitiés fortes. Et puis un jour, on a eu envie d'essayer de faire ça ensemble, quoi. Mais sans aller, on va dire, gentiment vers leur musique, parce qu'on pourrait prétendre être des musiciens académiques qui avons appris la musique et puis qu'on sait tout jouer, je sais pas quoi. On s'est plutôt dit, bah en fait, essayons de clasher ensemble, quoi. Donc moi, je considère qu'en fait, toutes les musiques traditionnelles portent le punk. Nous, on le porte au quotidien dans nos choix de vie aussi. Survivre en tant que musicien, musicienne avec le niveau de vie suisse, c'est presque mission impossible. Et voilà, on se retrouve sur plein de choses et puis on a essayé de faire ça ensemble et puis on est content du résultat. En tout cas, ça nous amène jusqu'ici, donc c'est super.
Moi, c'est vraiment via Cyril Yeterian en fait que j'ai rejoint le groupe. Comme il vient de mentionner, bah, on se retrouvait tous en fait au label et au magasin Bongo Joe. On a pas mal joué là-bas. On a fini par nouer des relations et des amitiés fortes. Ben voilà, au moment où il avait pensé en fait à mettre un projet en place qui marie à la fois l'expérimental, l'ethnique, avec un côté un peu bizarroïde et très authentique, ben il avait pensé à moi, il m'avait appelé et voilà, moi j'ai trouvé l'idée vraiment superbe. Déjà que je connaissais très bien tous les musiciens en fait du groupe, ben du coup ça m'a aidé un peu à m'intégrer facilement en fait au groupe. Par rapport à la composition, je dirais plutôt que Simon en fait de Cyril et Cyril avec Hyperculte. Et après, nous, en fait, on a posé les instruments traditionnels ainsi que les voix, en fait, dessus.
Tu parlais de punk, Cyril. Pour toi, Ali, c'est quoi le punk ?
Alors, pour moi, le punk, c'est... Ce que je comprends dans le punk, c'est de chanter de fond de cœur et de raconter des choses qui se passent. Moi, par exemple, la chanson que je chante avec Yala Miko, bon, un peu punk, mais ça raconte aussi de mon immigration, de ce que j'en ai vécu dans ma vie, surtout mon parcours immigratoire, parce que ouais, je suis résidé en Suisse, mais je suis un immigrant. Voilà, j'ai vécu pendant 12 ans sans papier. 12 ans, c'est vraiment beaucoup, dans plusieurs pays en Europe. Voilà, j'arrive en Suisse à travers la musique. J'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de gens qui m'ont permis de vivre voilà, ma vie et rencontrer des bonnes personnes et pouvoir s'installer et avoir une stabilité dans ma vie.
رودنبر غزا سبيتي جبورا تبني نبهتي عاشو قديلي
On entend dans la musique de Yala Miko beaucoup de langues. Il y a de l'arabe, il y a de l'érythréen, il y a du français. Quoi comme langue encore, Cyril ?
Je vais te poser la question à Noir, parce que je ne sais jamais si... la différence, enfin la différence, je l'entends, mais votre arabe, moi avec mes origines libanaises, du coup je ne le comprends pas hyper bien. Mais des fois, oui, il y a du berbère, c'est encore autre chose.
Ouais, exactement. Si vous voulez, en fait, le dialecte marocain et algérien, c'est une résultante de pas mal de métissage aussi entre les langues africaines, à savoir les Bambara, les Hausa, les Peul, ainsi que les Berbères qui sont en place et les Arabes en fait, qui sont venus de l'Orient et des conquêtes arabo-musulmanes. Et du coup, ça a fait un mélange en fait, de plein de choses. Et je dirais en fait, que c'est un Arabe un peu particulier en fait, qui appartient à ces régions, la Maghrébine. Voilà. Nous, on se comprend et on arrive en fait, à se comprendre. Mais je pense, ouais, pour les gens en fait, du Golfe et de la péninsule arabique, ils auront du mal à comprendre en fait, ce dont on parle.
Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, Ali Anwar, c'est le nord de l'Afrique, puis Samuel, il représente plutôt l'Est avec l'Érythrée. Moi, j'ai pas connaissance. Dans Yala Miko, tu vois, c'est déjà des mondes tellement différents, tu vois, qui se. Alors, il y a quelques mots, mais en fait, finalement, la langue, c'est évidemment pas la même. Mais musicalement, tu vois, ils jouent ensemble, en fait. Et ça, je trouve ça trop beau, parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y a souvent des gens de la Corne de l'Afrique qui ont l'occasion de jouer avec des gens du Nord de l'Afrique, etc. Et quand on a dans les concerts de Yala Miko, il y a un moment, une espèce de capsule, un moment où on laisse juste les trois, nous, on s'assied autour, enfin, là, nous, à notre place, et on les laisse les trois juste discuter ensemble avec leur propre musique. Et puis Anwar, il parle de fusion. Pour moi, ça c'est déjà de la fusion, quoi. Et voilà. Donc ouais, c'est des moments. Enfin, c'est fort, quoi. Moi, je me sens riche avec ce groupe.
Le nom Yala Miko, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a rappelé une chanson de Cyril.
Yala, c'est vraiment le poncif absolu de la langue arabe, et puis on en joue. Et puis ça, que même notre album, il s'appelait Yala Mickey Mouse. Alors c'était le clash entre l'oncle Sam et les mondes arabes, et puis ça, c'était important pour nous. Alors le Yala, on l'a gardé, on a enlevé le H. Et on s'est dit, bon, on fait comme ça, parce qu'on s'est cassé la tête pour trouver un nom de groupe. Franchement, c'était difficile. On a essayé de traduire plein de mots, tu vois, qui pourraient nous représenter. Mais tu vois, des mots évidents, simples, tu vois, genre rien que le feu. On se dit, bon, alors, on dit comment ça en tigrinia, on dit comment ça en berbère, mais on trouvait pas. Et puis finalement, on s'est dit, bon, bah, on garde le Yalla, parce qu'en fait, en plus, le nom Yalla, le nom Mickey Mouse, ça vient d'une anecdote de Vincent de Hypercule. Donc on s'est dit, bon, on se retrouve autour de ce mot. Et puis Miku. Ça, c'est, par contre, c'est la première star ou la plus grande star holographique du Japon. Donc, elle remplit des stades et des dizaines de milliers de Japonais vont voir un groupe jouer sur scène. Mais donc, la chanteuse, c'est un hologramme. Et elle sort des albums et tout ça. Et en fait, Simone Aubert, qui joue dans Yalla Miku et dans Hyperculte, elle a trouvé, c'est assez rare, une série limitée de la pédale Miku. Et en fait, quand elle actionne cette pédale, ça fait les sons de Miku. Alors qu'elle joue avec la gratte, mais t'as l'impression qu'il y a un robot qui chante. Donc on s'est dit, bon voilà, en fait, y a, encore une fois, le même tricks que pour Yalla Mickey Mouse. Yalla, ça représente, tu vois, finalement, d'une certaine manière, un monde, tu vois. Un monde, un immense monde, et puis c'est une temporalité qui remonte à la nuit des temps. Et donc les traditions, etc., ça on aime, c'est de là d'où on vient. Et Miku, c'est un peu le futur déglingue, tu vois, ou les promesses du futur, donc on s'est dit que ça nous représentait bien. Dans l'album, t'as quand même des moments où il y a Noir qui chante, et puis en fait, il y a un peu des questions-réponses, et en fait, il y a vraiment Miku qui lui répond à certains moments, et ça, c'est Simone qui joue avec sa guitare, mais c'est quand même une espèce de voix un peu androïde comme ça. Et j'adore le mot qu'il a utilisé tout à l'heure à Noir pour définir Yalla Miku, bizarroïde, je trouve qu'il y a des moments où ça l'est, quoi.
Aussi qu'avec ce groupe, en fait, pour moi, il m'est très cher et il m'est profondément inspirant dans le sens où on cohabite ensemble, on essaye de vivre ensemble, de créer ensemble et de trouver en fait des terrains d'entente. Et comme vous avez mentionné en fait tout à l'heure, je pense qu'il est temps en fait de donner du pouvoir aux musiciens et aux artistes pour espérer un monde et un avenir meilleur. Parce que voilà, je pense qu'ils ont cette tendance à aller vers l'autre déjà et essayer de comprendre l'autre. Et même en fait de trouver des excuses en fait à des comportements un peu qui sortent en fait des normes. Voilà.
J'ai envie d'appeler sa musique des mondes, tu vois. Ali Anwar, il représente un monde, moi j'en représente un autre qui est pas le même que celui de Cyril Bondy. Puis en fait, on fait se rencontrer nos mondes, en fait. Et ça c'est. Mais voilà, donc ouais, on est une espèce d'arche de Noé, je crois, de mondes musicaux qui finalement sont les expressions de mondes, enfin de contextes culturels qui sont expressions de résultats de politique, etc. Enfin, c'est tellement complexe. Mais voilà, on se sent tous hyper chanceux, je crois, d'être passionné par la musique, de le faire la nôtre, et puis de se rencontrer, de voyager, etc. Et pour te répondre à qu'est-ce qu'il y a après. Franchement, je crois que la chance que je me sens chanceux d'avoir ce label et d'avoir l'impression qu'on n'aura jamais fini. Parce que là, je regarde le catalogue de ce qu'on a prévu pour l'année prochaine et ça va aller dans tous les sens.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Le rock français était à l'honneur des disques soutenus cette semaine avec Monument Movement par Ranko et Our Decision par Frustration. Quant à la carte blanche, le mot d'ordre était cosmopolite avec l'interview du groupe Yalla Miku. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.